Que je laisse revoir sans que je lui commande, parce que vous les connaissez bien. Et je voudrais que nous commencions cette séance, qui est une séance à mi-parcours. Hein. C'est la troisième séance, et on en reste deux plus tard. On est donc au milieu de notre chemin de première découverte de l'Égypte ancienne. Et j'ai pensé que ce serait bien de faire une petite révision. Toujours en pensée, pour se remettre un peu en jambe, hein, mais aussi parce qu'on va en avoir besoin. Je vous l'ai dit la dernière fois d'ailleurs, hein, on va avoir besoin, pour aller plus loin, de choses que l'on a vues les fois précédentes, et notamment à la dernière séance. Donc, nous allons commencer par une petite et salutaire révision. Hein, et on va commencer par quelque chose de très simple, et on va se rappeler qui est la figure qui ici s'est présentée.
Isis,
c'est Isis. Voilà, Isis, elle est qui?
Horus.
Voilà, Horus ou Harpocrate. Hein. C'est qu'Horus, c'est le nom traditionnel, le nom égyptien. Harpocrate est le nom donné par les Grecs à l'époque hellénistique à cette figure. Donc on a effectivement ici une Horus, une Isis lactance, une Isis qui allait être Horus ou Harpocrate. Bien. Et là
Thoth.
Thoth. Hein, Thoth. Ouais. Ok. Vous me rappelez qui est Thoth?
C'est le dieu de. Avec tête d'Ibis.
Pardon?
C'est le dieu du savoir.
Hein. C'est le dieu du savoir. Hein. Thoth, c'est le dieu de l'écriture, de l'intelligence, du savoir.
Hein. Alors, une tête d'Ibis, où il peut être un singe.
Voilà, il a effectivement, il peut être ibiocéphale ou cynocéphale. Là, c'est le Thoth ibiocéphale qui est représenté. Hein. Okay. On continue.
Horus.
C'est toujours la même, hein. Il faut que les autres se mobilisent un peu. Hein. Attention, hein. Les autres, là. Hein. Voilà, hein. Vous avez tous révisé, je suppose. Hein. Donc, c'est Horus. Hein. Horus qui est qui?
Le fils d'Isis et
Osiris. Le fils d'Isis et Osiris, oui. Et puis on pourrait le caractériser comment, cet Horus?
Le premier pharaon.
Oui, c'est... alors après Osiris quand même, hein, oui. Puisque Osiris est le premier, hein, son père. Mais lui, effectivement, prend la suite, hein, tout à fait. Donc il est tout à fait dans les tout premiers pharaons légendaires, pourrait-on dire, de l'Égypte. Hein, oui. Et puis qu'est-ce qu'il pourrait incarner finalement dans la mythologie égyptienne, rappelez-vous de son histoire.
Avec son œil. Hein.
Oui, mais justement, il incarne quoi? Il incarne le mal, le...
Non,
faut le dire. Faites comme si je ne savais rien. Je ne sais rien. Vous pouvez tout me dire. Hein. Moi, je ne sais rien. Hein. Donc, vous devez dire même des choses qui ont été évidentes pour vous. Horus, c'est le dieu du bien, rappelez-vous. Hein. Son père, Osiris, a été tué par son propre frère Seth, et c'est Horus qui va venger son père, hein, en ayant un combat singulier avec Seth. Et donc, Horus, c'est en quelque sorte le dieu du bien qui vainc le mal, qui est Seth. Hein. Donc Horus, c'est un dieu très très favorable, effectivement. Et là, Anubis. Hein. Donc c'est le dieu Anubis. C'est qui ce dieu Anubis? C'est le dieu oui, des morts, des ténèbres. C'est celui qui préside notamment la momification. Donc c'est définitivement une divinité très importante. Hein. Et il a sa caractéristique, c'est quoi? Tête de chacun. Hein. Tête de chien ou de chacun.
Ça, c'est le bélier.
Dieu bélier qui s'appelle Khnoum. Hein, voilà. Et alors, Khnoum, K-N, enfin K-H-N, c'est qui, c'est quoi?
C'est le dieu de la fertilité.
Oui.
La force.
Oui, c'est surtout le dieu créateur. Vous savez, c'est celui qui a modelé, dit-on, hein, les premiers humains, en quelque sorte. Hein, donc c'est un dieu favorable, essentiel, hein, que Khnoum.
Ah, mais ça, c'est Thoeris.
Thoeris, qui est quoi? Quelle est sa caractéristique?
Maternité.
Oui, voilà. Et c'est une déesse, effectivement, de la fécondité, mais...
Qui a une tête
d'hippopotame. Hein. Et elle n'a pas que la tête. Hein. Elle a le ventre. C'est bien parce qu'elle a un gros ventre d'hippopotame qu'elle est venue la déesse à la fécondité. Hein, parce qu'elle évoque, en quelque sorte, les parturions, pourrait-on dire. Hein. Thoeris. D'accord? Très bien.
ça, c'est la déesse lionne.
La déesse lionne qui s'appelle
Sekhmet.
Sekhmet, oui. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire comme caractéristique?
Il y a une tête de lionne et un.
Une tête de lionne.
Et du soleil.
Alors, parlez bien fort, parce qu'avec les masques. Quelle est sa caractéristique en termes de personnalité, pourrait-on dire, à Sekhmet?
C'est la force, le combat.
Oui, c'est ça. C'est une figure divine assez redoutable. Hein. Sekhmet, c'est la déesse lionne, la déesse dont la caractéristique est peut-être qu'elle est la colère. Hein. Alors, elle peut être positive, mais on ne marche pas sur les pieds de Sekhmet. Hein. Voilà. Il vaut mieux pas. De toute façon, en général...
Ptah,
hein. Ça c'est le dieu Ptah. Et alors le dieu Ptah
terrestre.
C'est une représentation de Ptah.
C'est une représentation de Ptah, oui. Et vous faites penser à quel autre dieu Ptah?
Ptah-Patek.
Alors, Ptah-Patek, on parlera peut-être, et une sorte de. Pourrait-on dire de compagnon, de double de Ptah, mais quand vous regardez Ptah comme ça, si vous ne savez rien, il vous fait penser à quel autre dieu? Ben, moi, il y a un dieu auquel il me fait vraiment penser. Hein.
À Osiris.
Quel est l'élément vraiment très proche entre Ptah et Osiris?
La forme momifiée.
Voilà, ils sont momiformes, l'un et l'autre. Les autres, ils étaient momiformes? Sekhmet, Touhéris, etc. Non, c'est le premier jour qui est momiforme. Or, Osiris, il est comment? Il est momiforme. Hein. Donc, Ptah, c'est un dieu momiforme. Et c'est un dieu qui évoque... c'est un peu le Pluton égyptien. Hein. Il évoque la dimension ctonienne, terrienne, Ptah. Hein. Voilà. Voilà.
La
triade. Alors, vous voyez quoi de gauche à droite?
Isis
à gauche, représentée. Qu'est-ce qui permet de savoir que c'est Isis?
Elle
a son trône sur la tête. Ensuite, au milieu,
Horus,
dont le nom c'est Harpocrate, le nom hellénistique, le nom tardique, le nom grec, oui. Et à quoi vous le reconnaissez?
La tresse,
effectivement, hein, la natte, qui est la natte des enfants que l'on offre lorsqu'on n'est plus un enfant au dieu. Hein. Ok, et alors à droite,
Nephthys,
qui est qui?
La sœur
d'Isis, et que vous reconnaissez pourquoi?
Elle a son hiéroglyphe sur la tête.
Voilà, elle a son hiéroglyphe sur la tête, qui est une sorte de construction. Hein. Nephthys, c'est une divinité qui est liée à cette idée-là, et dont l'hiéroglyphe correspond à cette idée. Bien, donc effectivement, la triade, hein, Isis, Harpocrate, Horus et Nephthys. Parfait. Alors, on a vu un certain nombre de dieux. On continue avec d'autres de ces dieux-là. Là, vous avez Thoth. Hein, donc celui qu'on a vu tout à l'heure, dont vous me rappelez qui il est, le dieu de quoi?
Du savoir,
de l'intelligence, hein, de l'intellect. Vous rappelez qu'il a devant lui ici une déesse.
Maat.
Hein, la déesse Maat, qui est la déesse de quoi? Ça, c'est facile.
Voilà,
c'est la déesse de l'équilibre. Vous le voyez pourquoi?
Parce qu'elle a sa plume.
Voilà, elle a une plume sur la tête. Hein. Mettez une plume sur votre tête, vous verrez que ce n'est pas si simple. Maat, elle a toujours une plume verticale. Hein. La plume tient sur la tête. Elle est la déesse de l'équilibre général du monde, Maat. Hein. Voilà. Et donc là, elle est représentée avec Ibis sous sa forme, non seulement ibiocéphale, mais sous la forme d'un ibis. Alors là.
C'est Apis.
C'est qui? C'est quoi?
C'est un taureau.
Oui. Et ce dieu Apis correspond à quelle idée? Alors, sachant que, quelquefois, évidemment, hein, la signification de ces dieux est un peu plus subtile que ce qu'on résume là en 30 secondes. Hein, mais grosso modo, Apis, c'est un dieu qui évoque quoi? Comme tout taureau qui se respecte. L'idée de la force, la fertilité, etc. Hein, ok. Donc, on a là Apis. Bien.
Et là, c'est Bastet.
C'est Bastet. Alors Bastet, c'est quoi? C'est qui?
La chat.
Oui.
Qui est
c'est une sorte de parèdre, comme on dirait, d'une sorte d'équivalent de Sekhmet, avec peut-être une petite subtilité.
peut-être plus le foyer.
Voilà, elle est un peu plus tranquille que Sermette, c'est une dévoreuse, hein, qui, encore une fois, évoque l'idée de la colère. Hein. Bastet, c'est Sermette en plus calme. Hein. Voilà. Donc, Bastet, effectivement...
Ça, c'est Toth.
Ça, c'est Toth. Cynocéphale, forme d'un singe. Hein. Donc, c'est Toth, que l'on a vu tout à l'heure, mais sous forme de singe. OK.
Ah oui, ça c'est le
Bess. Bess, absolument. C'est Bess, le dieu Bess. Hein, le dieu ou le demi-dieu. Enfin, bon, c'est. Bess est une sorte de figure qui est entre le dieu et le génie, vous voyez. Hein, voilà. Et alors, ce dieu Bess, à quoi correspond-il ?
C'est le foyer aussi.
Pardon ?
Le protecteur du foyer.
Il a de ça, effectivement. Un Bess est un peu un protecteur du foyer. Pourquoi protecteur, d'ailleurs ? Moi, quand je le vois, si je connais rien, je me dis, oulala, quel horrible personnage. Vraiment,
il veut effrayer pour voilà. effrayer les mauvais.
Il effraie, il fait des grimaces épouvantables, parce que c'est mieux rien d'effrayer le mauvais œil. Hein. On a beaucoup parlé la dernière fois, rappelez-vous. Hein. Donc, Bess, il fait des grimaces horribles, parce qu'il effraie les gens qui veulent rentrer, si j'ose dire. Hein. Si vous effrayez avec un petit dieu tout mignon, etc., tout le monde va passer. Les mauvais esprits rentreront. Si vous avez un horrible personnage qui fait des grimaces, qui montre les dents, etc., là, vous allez être effrayé. Les mauvais esprits n'entreront pas. Donc, avec ces grimaces terribles, il effraie. Donc, c'est un chic type, si vous voulez.
Ah, c'est
voilà Ptah-Patek, hein, qui est, on en a dit un mot tout à l'heure, qui est un peu une sorte d'aide de Ptah. Hein, ces Ptahs ont plus, comment dire... voilà, c'est ça, en plus quotidien, plus domestique. Hein. Il est assez proche de Bess, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, Ptah-Patek, on en voit beaucoup de représentations, hein. Bess encore plus. Parce que Ptah-Patek, il a un peu une drôle de forme, il a une grosse tête, etc., mais il est très sympathique et il est une sorte de, oui, de Ptah, mais plus immédiat, plus proche.
Ah, c'est le pilier de Jed.
Hein. Toujours la nous qui répond, je remarque. Hein.
Hein. Ah, mais c'est j'ai retenu. Hein.
Comment ?
J'ai retenu.
C'est bien, c'est bien.
Voilà. Je vérifie mes neurones.
Ouais, c'est ce qu'ils font. Hein. Le pilier de Jed. Vous me rappelez ce que c'est que le pilier de Jed ?
C'est la palmier.
Voilà, c'est un palmier dont on aurait coupé les branches, hein, un palmier qu'on aurait branché. Il y a une autre possibilité aussi.
C'est la colonne vertébrale d'Osiris.
Voilà, ce serait la colonne vertébrale d'Osiris. Hein? Alors, ce pilier de Jed, il évoque quoi ? Il représente quoi ?
La stabilité.
Oui, il est effectivement la stabilité, hein, l'épine dorsale d'Osiris. Déjà qu'Osiris, je veux dire qu'il y a c'est du lourd, Osiris, hein, en termes de représentation. Ben, l'épine dorsale d'Osiris, c'est vraiment quelque chose qui montre une sorte. Quelque part, l'épine dorsale du monde, hein, le pilier de Jed, c'est quelque chose qui est le garant d'une sorte de stabilité universelle. Hein. Donc c'est le pilier de Jed, c'est ça. C'est une sorte de vision philosophique de cela, de la solidité, de la structure. Et là
c'est encore
un pilier de Jed. C'est pas un pilier de Jed. Regardez, c'est pas pareil, hein, quand même. Donc là, vous avez cette colonnette-là. Et regardez, vous voyez, c'est pas pareil. Hein. Ça représente quoi, en fait ?
Alors,
c'est une colonnette papyriforme. Hein. Vous voyez, en haut, vous avez l'idée du papyrus qui s'évase. Hein. Donc, ça, c'est une colonnette, effectivement. Vous rappelez de son nom ? C'est la colonnette Wadj.
Ah,
voilà. Et l'idée, c'est quoi ? Cette colonnette papyriforme. Et on retrouve cette forme dans l'architecture. Hein. Il y a des temples, hein, qui ont des colonnes papyriformes. Vous vous rappelez ? Ben, c'est l'idée de la végétation qui croît. Hein. Donc la colonnette Wadj, elle évoque l'idée de la nature qui est productive, en quelque sorte. Hein. Là. Et là,
l'œil
d'Horus, absolument. Hein. Et pourquoi l'œil d'Horus et pas l'œil de je ne sais pas qui ?
Parce que quand il s'est battu contre son oncle,
oui, qui s'appelle ?
Qui s'appelle Seth,
oui.
Il a perdu un œil.
Oui,
Seth
lui a arraché, oui.
Et donc Toth a rassemblé l'œil.
Pas Thoth.
Anubis avec sa maman, Isis avec Nephthys.
Alors, là, vous confondez en fait deux thèmes. Hein. Ouais, donc, je vous rappelle que Seth s'est battu avec Osiris. Hein. Osiris est le premier pharaon de l'Égypte, légendaire. Il est très bien, très, très bon, tout le monde est pareil, très content. Sauf le frère d'Osiris qui s'appelle Seth. Et Seth est tellement pas content, finalement, du succès de son frère, qu'il va se battre avec lui et le tuer et le couper en morceaux. Et Horus, qui est le fils d'Osiris, va décider de, j'allais presque dire, convoquer en duel son oncle Seth et se battre avec lui. Il sera victorieux, mais dans le combat, Seth va arracher l'œil d'Horus. Après cela, Horus va récupérer son œil, et plutôt que de se remettre en place, d'ailleurs on peut supposer que l'œil s'est recomposé par lui-même peut-être, en tout cas il va offrir son œil à son père, Osiris, hein, qui entre-temps avait été reconstitué. Parce que ça, vous le savez aussi, quand Seth a coupé en morceaux Osiris et qu'il a envoyé dans tous les coins de l'Égypte des morceaux d'Osiris, Isis, la femme d'Osiris, qui est aussi sa sœur, hein. C'est pour ça que c'est les pharaons, souvent, épousent leur sœur. Oui. Parce qu'Osiris avait épousé sa sœur Isis. Hein. Donc les pharaons font ça à l'image d'Osiris. Les pharaons ne sont que d'autres images vivantes d'Osiris. Continuez la tradition. Hein. Et donc, les morceaux d'Osiris vont être récupérés par Isis, sa femme et sœur, et son autre sœur, qui n'est pas sa femme, Nephthys. On les a vus tout à l'heure dans la triade de part et d'autre d'Horus, Harpocra, d'accord. Et les morceaux vont être rassemblés. Osiris, une fois bandeletté, une fois que ces morceaux vont être contenus dans les bandelettes, hein, va renaître, si vous voulez. Et donc, Horus va offrir en cadeau son œil à son père, recomposé Osiris. Cet œil, on l'appelle comment ?
Ujjat.
Hein, c'est l'œil Ujjat. Et quel est l'intérêt de l'œil Ujjat ? Pardon ? Protection, voilà, hein, c'est évidemment un élément qui protège. C'est un petit peu des Ujjat, vous avez des quantités, des monceaux. Hein. C'est vraiment un œil protecteur. La dernière fois, vous aviez dit très justement qu'on pouvait être rapproché aussi bien de les yeux qu'il y a sur les barcamales, ou les yeux qu'en Turquie encore aujourd'hui on vend, ou en Grèce.
Enfin, voilà. Au Vietnam aussi.
Ben, peut-être aussi. Alors là, c'est peut-être pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que l'œil, c'est un élément prophylactique un peu universel, hein, mais qui est très très à l'œuvre dans le bassin méditerranéen. On en a là un exemple avec l'œil Ujjat. Et alors, je crois que c'est le dernier élément que je voulais vous montrer.
C'est la ceinture d'Isis.
Oui, c'est la ceinture d'Isis. Quel est son petit nom ?
Tit.
La ceinture Tit. La ceinture d'Isis, effectivement, qui donc, comme Isis elle-même, hein, évoque l'idée favorable à la ceinture. Enfin, Tit est un signe porte-bonheur, pourrait-on dire, comme un certain nombre d'autres. Bien. OK. Parfait. Ah ben, on a fait une petite révision, mais peut-être qu'on en fera encore une autre fois, parce que je sens qu'il y a quand même des fluctuations. Hein, voilà. C'est ça la pédagogie. Franchement, c'est le clou. Hein, voilà. Parce qu'à la fin de ces séances, vous devrez absolument jongler avec ça. Hein, c'est obligatoire. Hein. Voilà, il faut savoir ça. Hein, c'est fait partie de la. Sachant que on voit ça de manière un peu simple, quelquefois c'est beaucoup plus complexe que ça, mais déjà, si on a une bonne idée de ce socle-là, ça permet d'y voir bien clair. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer cette séance en partant d'un objet. L'objet que je vous propose aujourd'hui, que je propose à votre sagacité, le voilà. Alors, encore une fois, essayez de cogiter. S'il y en a parmi vous qui savent déjà, peut-être, laissez dire les autres, parce qu'autrement, ça va un peu couper dans l'œuf la chose. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que cet objet que vous voyez là ?
Une urne,
oui. Cette urne, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu en quelle matière elle est, quelle taille elle peut avoir ? Elle est en pierre, oui. Vous avez une idée derrière la pierre ?
Calcaire ?
Peut-être que c'est de la famille des calcaires, mais ce n'est pas un calcaire. Enfin, c'est de l'albâtre. Hein, c'est de l'albâtre. Hein, quel est l'intérêt derrière l'albâtre, finalement ?
Tendre.
Oui, c'est une pierre assez tendre. Oui. Mais c'est une pierre qui est assez belle, qui peut être un peu translucide, ça dépend des albâtres. Hein. Mais voilà, donc c'est une pierre de belle qualité, qui peut faire penser au marbre, mais en moins.
Moins dur.
Voilà, c'est ça, moins dur, plus opalescent, d'une certaine manière.
Plus poli, bien.
qui se polie bien. Alors, voilà, cet objet fait à peu près quelle taille, en gros? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, oh, ouais. Oui, 40, 50. Voilà, on est dans cette taille-là, à peu près. Bien. Vous pouvez me le décrire? Oui, il y a des tas d'hiéroglyphes, donc il y a des textes. Hein. Oui. Au-dessus, il y a effectivement une tête d'animal. On voit son museau, oui. Oui, effectivement, cette tête fait couvercle.
Donc c'est creux.
Donc ça veut dire que c'est creux. Et qu'on a d'un côté cette urne et de l'autre le couvercle.
Donc c'est pour mettre quelque chose.
Alors, moi j'ai deux questions. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ça d'abord? Et d'autre part, cette tête vous rappelle-t-elle quelque chose? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met les viscères, voilà. C'est effectivement le vase que vous avez là, c'est un vase à viscères. Quel genre de viscères on peut mettre à l'intérieur?
L'intestin,
le cœur. Voilà. Alors le cœur?
Non, il n'y a pas.
Le cœur, il est à part. On le remet dans le thorax. Hein, voilà. Et si jamais pour des raisons X, Y, il est admis autre, on met cette amulette de cœur que je vous avais montré la dernière fois. Ou alors un scarabée. C'est bien aussi. Hein. Scarabée, vous rappelez, on en a déjà parlé, on en reparlera sans doute. Voilà, on peut mettre, oui, effectivement, le foie, l'intestin, les poumons, enfin, il y en a des viscères, hein, le pancréas, que sais-je encore, bien. Ok. Oui, et vous me disiez que peut-être la tête au-dessus vous rappelait quelqu'un, quelque chose?
Anubis.
Ça rappelle Anubis.
Oui, parce que c'est une tête de chacun.
Voilà, une tête de. Voilà, de en tout cas de canidé, on va dire. Hein, voilà. Hein. Bien. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle ce type de vase qui était destiné à accueillir des viscères?
Oui,
voilà, c'est ça. On avait ça, des canopes ou des vases canopes. Vous en savez la raison ou pas? C'est pas trop évident d'ailleurs, mais bon. Non. Alors, on appelle ce genre de vase canope, ou canope tout court d'ailleurs. Le mot est devenu un nom commun. Hein. Aujourd'hui, le mot canope est un vase qui peut être utilisé comme un nom commun, encore une fois. Alors, il y a plusieurs origines possibles. L'une d'elles, que j'ai en tout cas moi rencontré le plus souvent, c'est que l'on dit que, à l'époque hellénistique, donc ça peut être au 3e ou 4e siècle avant notre ère, il existait dans le delta une ville que les Grecs appelaient Canope. Et dans cette ville, Osiris était adoré sous la forme d'un vase dont la tête était celle d'Osiris. C'est-à-dire que la momie d'Osiris était remplacée par une sorte de gros vase. Vous voyez ce que je veux dire? Et puisque c'était dans la ville de Canope, on a appelé cet Osiris Canope, et par extension, tous les vases avec une tête, que ce soit Osiris ou pas, sont devenus des canopes. Voilà. C'est l'explication la plus souvent avancée. Il y en a au moins une autre, mais un peu plus complexe, et qui est liée à des questions de langue. Enfin, voilà. Bien. En tout cas, voilà peut-être l'origine même de ce mot canope, qui serait donc une origine tardive et hellénistique. Il y a une inscription sur le vase. Alors moi, je suis incapable de lire, hein, je ne lis pas du tout l'hiéroglyphe, mais je voulais vous la passer, cette inscription. La voilà, ce qui a peut-être nous permis d'y voir un petit peu plus clair. Voilà ce qui est marqué. « Ainsi parle la déesse Nelt. Chaque jour et chaque nuit, je protège Douamutef, qui est en moi, la protection de l'Osiris Horemsaf, fils de la dame Arcta. » C'est Douamutef. Voilà le texte qui est inscrit sur ce vase canope. Alors, fort de ce qui est marqué sur le vase canope, et la traduction vous aide bien, je pense, est-ce que vous pouvez me dire ce que cela veut dire? Cette phrase que vous voyez là, qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre de ce vase, de ce pourquoi il est fait, ou celui ou celle pourquoi il est fait? Enfin, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ça? Vous voulez que je relise ou vous lisez bien tous?
Douamutef, c'est le viscère.
Alors, Douamutef serait donc celui dont les viscères sont dans le vase. Hein, d'où le fait « je protège Douamutef ». Okay. Donc, Douamutef, c'est le mort, c'est le nom du mort. Okay. Donc, ça, vous voyez, « je protège Douamutef ». Donc, la déesse Neit, elle protège Douamutef, qui est l'homme. C'est un homme? Je ne sais pas.
Un fils,
donc c'est un homme. Donc elle protège Naït protège Douamoutev, dont les restes sont, les viscères, sont dans ce vase canope. Ok ? Alors après, il marquait la protection de l'Osiris Horemsaf, fils de la dame Arpta, c'est Douamoutev. Comment vous comprenez ça ? La protection de l'Osiris Horemsaf, fils de la dame Arpta, c'est Douamoutev.
C'est le Horemsaf là qui pose problème.
Ah.
Parce que, mais est-ce que ça ne serait pas ses viscères alors qui seraient dedans ?
Alors, ce ne seraient pas les viscères de qui ? De Douamoutev.
Oui.
Ce serait les viscères de qui alors ?
Horemsaf.
Ah, d'Horemsaf. C'est-à-dire qu'en fait, les viscères qui sont à l'intérieur ne seraient pas ceux de Douamoutev, mais ceux d'Horemsaf. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
C'est la deuxième phrase.
Oui. Est-ce qu'il y a un élément de la deuxième phrase qui vous le fait penser plus particulièrement ?
Fils de la dame Arpta.
Fils, autrement dit, voilà. Horemsaf est le fils de la dame Arpta.
Oui.
Hein, ça, ça paraît à peu près clair.
Oui.
Donc vous, votre proposition, c'est que Horemsaf, qui est le fils d'Arpta, c'est lui dans les viscères, sont dans le vase. On est OK.
Il a marqué la protection.
Oui. Ouais. OK. Mais alors, on retrouve là Douamoutev. Ça veut dire quoi, ça ?
C'est lui la divinité. C'est Douamoutev la divinité.
Donc Douamoutev serait la divinité qui...
Et le vase.
Et le
vase.
Et le vase. C'est-à-dire que le vase, donc ce serait finalement pas... Anubis ?
Non.
Donc, c'est pas Anubis.
Eh ben non, c'est
Douamoutef. C'est pas Anubis, c'est Douamoutef. Donc, le vase, c'est Douamoutef. Ce Douamoutef, il protège Horemsaf, qui est le fils d'Arpta. Hein, parce que la protection d'Horemsaf, c'est Douamoutef. Hein. Donc, c'est bien Douamoutef qui protège Horemsaf, qui est le fils d'Arpta. D'accord ? Pourquoi il y a marqué Osiris à côté d'Horemsaf ?
C'est ça qui est.
Pourquoi il y a ce lien entre Osiris et Horemsaf ?
Il y a peut-être plusieurs Osiris,
son autre nom.
C'est son autre nom, il s'appelle Osiris Horemsaf. C'est une possibilité. Hein.
Comme Osiris, il est momifié maintenant.
Osiris est momifié. Il est mort, il est
coupé. Horemsaf est aussi momifié.
Donc il y a une sorte de parallélisme entre les deux, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui.
Une sorte de parallélisme entre Osiris et Horemsaf. Autrement dit, Osiris serait un peu le modèle d'Horemsaf. Hein. Tout comme Osiris est mort, a été momifié, Horemsaf est à l'image d'Osiris mort et ressuscité et momifié. Donc, on l'appelle aussi Osiris pour montrer qu'il suit le même parcours que Osiris. Enfin, Horemsaf suit le même parcours que Osiris. C'est ça que vous voulez dire. Hein. Okay.
En tout cas, c'est bien tordu.
C'est vrai qu'il faut se repérer. Hein. Bien. Faut se repérer. Je voudrais remarquer qu'il y a également
la
déesse Naït, tout à fait au départ, hein, parce que c'est pas fini tout ça. Hein.
Oui, la déesse Naït, c'est
quoi ? Oui. Ah, ben, c'est
la déesse qui protège, qui doit monter.
Donc ce serait la déesse Naït qui protège Douamoutef, qui protège.
Qui contient les viscères de machin.
Hein, de Nerepta, qui est lui-même le fils de Arpta, et Douamoutef, et Horemsaf, à l'image d'Osiris, suit la voie d'Osiris, c'est-à-dire celle de la mort, de la mumification et de la renaissance.
Oh, ça me paraît bien compliqué, tout ça.
C'est trop compliqué.
Ah, oui,
il y aurait une autre solution.
Est-ce qu'on ne peut pas lire dans l'autre sens ?
Ah, allez-y.
En commençant par le bas, c'est
oui.
Douamoutef, virgule, fils de la dame Arpta,
oui.
Qui est la protection de l'Osiris.
C'est la dame Arpta qui protège l'Osiris de Douamoutef ?
Non, c'est
Douamoutef, fils de la dame Arpta.
Oui.
C'est sa mère, quoi.
Oui.
Qui serait, lui, la protection de l'Osiris.
Voilà, oui, c'est-à-dire ce que disaient les autres, là, mais voilà, vous leur dites de manière plus claire, sans doute, absolument. C'est-à-dire que Douamoutef protège...
C'est le fils de... Qui est le fils ? C'est lui, le fils.
C'est lui, vous voyez, le fils d'Arpta.
Oui.
D'accord, ok. Ah oui, non, c'est pas la même chose que tout à l'heure.
Oui.
D'accord. Donc vous voyez Douamoutef comme étant le fils d'Arpta. Voilà. Et donc Douamoutef étant le défunt, en quelque sorte.
Voilà.
D'accord.
Non, ce qui est
Avec... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec Orem-Saf?
Je sais pas.
On l'enlève.
Quelqu'un disait, c'est un peu compliqué. C'est pas faux.
Est-ce que Osiris peut avoir un autre nom? C'est-à-dire Osiris Orem-Saf. Est-ce qu'il a, dans certains cas, un autre nom que Osiris Sol?
Oui.
Ben, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Une de ses noms.
Oui, je pense que c'est un nom.
Voilà, donc ça pourrait être une autre appellation d'Osiris. Oui. C'est-à-dire qu'il y a Osiris tout court, il y a Osiris bidule, Osiris truc chouette, etc. Voilà. On a une option.
On a bien plein de vierges.
Oui, oui. Donc Osiris aurait plusieurs noms qui peuvent lui être associés. Voilà. Ok. Je ne voudrais pas dire, mais Neit là-dedans.
On l'enlève.
On l'enlève.
Alors, c'est elle qui parle.
Ainsi parle Neit, oui.
C'est une déesse.
Voilà. Hein? Qui est
déesse?
Ainsi parle la déesse. Chaque jour, je me pense. Neit, ça peut être une petite sœur à Isis et à.
Non, c'est une déesse. C'est une grande schéma, grand-mère.
Mais c'est comme elle protège aussi.
Tout le monde protège.
Voilà.
Bien. Bon. Alors, est-ce qu'on essaie de.
Oui.
Non, mais en gros, vous avez tout trouvé. Hein.
Ah.
Non, bravo. Hein, parce que c'est effectivement, c'est une phrase compliquée. Hein. Mais vous avez bien tourné au tout et je trouve que vous avez vraiment bien vu le truc. Hein, alors que c'est effectivement très compliqué. Donc, je résume. L'homme mort, parce que c'en est bien un, dont les viscères sont conservés dans ce base, c'est bien Orem-Saf. Il est appelé Isis Orem-Saf parce que. Je vous le précise, vous êtes tous des Osiris en germe. C'est ce que je veux dire. À partir du moment où on meurt et qu'on renaît, on est tous des Osiris. Donc il y a l'Osiris Mathieu Pinet, l'Osiris Chantal Notary, enfin, c'est super. Hein. Vous êtes tous des Osiris en germe. Enfin, voilà. Hein. Donc l'Osiris Orem-Saf, c'est tout simplement ce qu'il est mort, qu'il ressuscitera comme Osiris, et donc puisqu'il va ressusciter comme Osiris, c'est l'Osiris Orem-Saf. Osiris devient une sorte de nom générique, si vous voulez, voilà, pour les gens qui meurent et ressuscitent. On est tous des Osiris en puissance. C'est quand même chouette.
Hein.
Pas perdu votre temps de venir ici, je vous le dis. Hein. Donc, voilà. Donc, l'Osiris Orem-Saf, c'est le mort dont les viscères sont là-dedans, et qui, comme Osiris, a son image, donc qui s'appelle l'Osiris Orem-Saf, va renaître après sa mort. Cet Orem-Saf est le fils d'Arpta. Hein. Et... la divinité qui est là et qui protège l'Osiris Orem-Saf, fils d'Arpta, c'est bel et bien, comme vous le suggérez tout à l'heure, Douamoutef. Hein. Donc Douamoutef, c'est lui. Ce qui est d'ailleurs un peu compliqué, parce que, vous le remarquez, c'est pas parce qu'on a un dieu à tête de chien, ou de canidé, plus ou moins de chacal, que c'est Anubis. Donc ça vous montre un truc un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on est là... On a fait des petites révisions de tutelle, on se dit très bien, il y a un ibis, c'est Thoth, il y a un singe, ça peut être Thoth aussi, il y a un chacal, c'est Anubis, il y a un faucon, c'est Horus, etc. C'est pas si simple que ça. Vous pouvez avoir un chacal, enfin un dieu à tête de chacal, ou en tout cas le canidé, parce qu'on discute beaucoup pour savoir si Anubis est vraiment un chacal ou plutôt un type de canidé. On va peut-être pas rentrer là-dedans, mais ça veut dire que vous avez des dieux à tête de canidé qui ne sont pas forcément Anubis.
Oui.
Hein, ouais. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Bon, on va faire comme ça. Hein. Et donc là, ce dieu à tête de canidé, c'est Douamoutef. Hein. Et donc, Douamoutef protège les viscères hein, de l'Osiris en Amsaf qui sont sous sa protection dans ce vase. Et, si j'ose dire, Douamoutef co-protège ces éléments, ces viscères qui sont dans le vase, avec... La déesse Neit. Si vous voulez, la déesse Neit, elle est la chef de Douamoutef, d'une certaine manière. Hein, parce qu'elle dit bien, chaque jour et chaque nuit, je protège Douamoutef. Hein. Donc il y a une hiérarchie. Il y a Neit, la déesse Neit. En dessous, il y a Douamoutef. Et en dessous, il y a l'Osiris Orem-Saf, qui lui-même est fils de Arpta.
D'accord.
C'est simple.
Oui.
Hein, vous voyez,
c'est dans l'explication.
Voilà, dans l'explication, c'est ça. Quand on tourne autour, ça l'est moins. Alors, vous demandiez qui est Neit. Neit est une déesse qu'on trouve souvent d'ailleurs avec Nephthys, avec Isis, avec une autre déesse qui s'appelle Selkis. Ces quatre déesses-là sont, un peu des déesses équivalentes. Alors certaines sont plus liées à des régions de l'Égypte, d'autres pas, enfin voilà. Mais on va dire que c'est une déesse positive, favorable, qui, un peu comme Isis et Nephthys, correspond à une sorte d'idée de protection favorable, etc. Bien. Donc voilà, on a fait, je crois, bien le tour de ce vase, qui est donc un vase canope. Hein. Et si je vous montre le cartel, je crois qu'on va y voir clair. Hein. Voilà donc le vase canope de Horemsaf, qui représente Douamtef, mais qui est placé sous la protection de Neith. Et en l'occurrence, on sait que Douamtef est un dieu qui protégeait particulièrement l'Arat, le pancréas et un certain nombre d'autres petits viscères. Ok ? On flanquait ça là-dedans. D'accord ?
Les rois de France, c'est pareil. Hein.
Oui, absolument.
Bah ouais, oui.
Absolument. Hein. Et souvent, d'ailleurs, parce que, vous savez que des fois, chez les rois de France, il y a même ça dans des lieux différents.
Oui, hein. c'est tout.
Voilà, Charles V avait plusieurs tombeaux. Hein. Il n'y avait pas qu'un tombeau à Saint-Denis, il y en avait au moins trois. Hein. Voilà, donc voilà aussi à quoi ressemble le même vase canope de Douamtef, enfin, d'Horemsaf, mais figurant Douamtef, voilà, hein, quand on a le couvercle, et ben on a à l'intérieur une cavité avec les restes des viscères, hein, peut-être un peu racornis, mais enfin, voilà comment ça se passe. Hein. Voilà. Bien. Seulement, voilà.
Il y en a d'autres.
Exactement. Il y en a d'autres. Il y a celui-là.
Il y a une tête de singe.
Il y a une tête de singe. Voilà, donc, un autre vaste canope qui va avec le précédent, on a le marâtre, même taille, hein, et qui a une tête de singe. Voilà. Alors, à votre avis, de quoi s'agit-il ?
Si c'est la tête de singe, c'est intelligent, c'est le cerveau ?
Alors, c'est vrai que ça fait penser à qui ?
À Thoth.
Ça fait penser à Thoth. Hein. Sauf qu'on a vu avec Douamtef, le précédent, que c'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'il a une tête de singe, on dit « Ah, c'est Thoth ». Donc cet être-là, Thoth qui protège la dimension de l'intelligence de notre fameuse Aremsaf, pardon. Hein. Mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est le cas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le vase canope que vous voyez là est le vase canope toujours de Horemsaf, mais cette fois, le dieu qui est là, qui n'est pas Thoth, s'appelle Api. Lui n'est pas du tout placé sous la protection de Neith, mais de Nephthys, que vous connaissez déjà, Nephthys.
Ouais.
Hein, c'est la sœur de d'Isis. Hein. C'est donc aussi la sœur d'Osiris. Et lui, il protège les poumons. Api. Api, moi je m'en rappelle de ce nom-là, parce que d'un moment, on a le droit de s'envoyer les pinceaux quand même. Hein. Api, je vous dis mon moyen mémodélique avant de me rappeler, après vous ferez ce que vous voulez. Moi je me rappelle parce que je trouve que souvent ces gibbons, ils me font penser aux chiens, vous savez, dessinés par Tex Avery, Droopy, hein, qui a ces deux de grandes oreilles, qui fait toujours une tête de 100 pieds de long, mais qui dit toujours I am happy. Je suis heureux. Hein. Voilà, donc moi je me rappelle de Happy, que vous savez ce que ça veut. Hein, mais, voilà, moi c'est ma manière à moi de me rappeler du nom de Happy. Voilà. Hein. Donc Happy, c'est lui. Mais ça n'est pas fini.
Il y en a quatre.
Eh oui, il y en a quatre. Alors ça vous inspire quoi ?
Tête de
faucon. Donc ça nous fait penser à qui ?
Horus.
Horus, sauf que c'est pas Horus. Voilà. Alors lui, il s'appelle Kébé-Sénouf. Hein ? Kébé-Sénouf ou Kébé-Sénouef, enfin il y a plusieurs manières de prononcer. C'est donc un autre de ses protecteurs des viscères. Lui protège estomac et intestin. Et il est sous l'autorité, j'allais dire, de Selkis. Hein. Vous savez, je vous ai parlé de ces trois déesses. Hein. Isis, Nephthys, ça vous les connaissez, il n'y a pas de problème. Mais on a également appris le nom de Neith. Et maintenant de Selkis, quatre déesses, surtout les deux premières, hein, mais les deux autres aussi, qui souvent vont vraiment ensemble. Hein, d'accord ? Donc ça c'est Kébé-Sénouf. Kébé-Sénouf. Ou Sénouef, hein, que on trouve le fois par. Enfin, ça se prononce plutôt Kébé-Sénouf. Ok ? Et alors, il y a le petit dernier, et le quatrième. Ah, c'est la tête. La tête, une tête humaine cette fois. C'est pas une tête de singe, pas une tête de faucon, c'est pas une tête de chacal ou de canidé, c'est une tête humaine. Alors on pourrait penser à Ptah par exemple, hein, sauf qu'il n'a pas une tête très Ptah, si j'ose dire. Hein. De toute façon, c'est pas une de ces divinités qu'on a révisées tout à l'heure. Hein. Là, il s'appelle Amset. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vais encore une fois vous donner ma manière de me rappeler de ce nom. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais quand je vois ces vases-là avec cette tête, je pense à un set de table. Mmh. Je me dis Amset. Alors, c'est complètement tiré par les cheveux. Ça n'appartient qu'à moi, mais chacun a sa manière de. Voilà, bien. En tout cas, Amset. Alors, nous répétons. Les noms des quatre, et on va prendre une petite image. Alors, Amset, hein, lui est placé sur la protection d'Isis, que nous connaissons bien, Isis, hein, et il protège le foie et la vésicule biliaire. Ok ? Voilà. Donc, comme ça, tous les viscères sont casés. C'est bon. Bien. Et alors, voilà donc l'ensemble des quatre vascanas, parce que vous avez toujours quatre vascanas. Hein, c'est comme ça, ça marche comme ça. Vous avez ça dans la tombe. Hein. Vous avez d'un côté le corps dans le sarcophage, puis à côté les vascanas avec les viscères à l'intérieur. Hein. Tout ça est très, très organisé. Donc vous voyez quatre vascanas. Ça, avec la tête de quoi ?
Singe.
C'est happy. Rappelez-vous, hein. I am happy, droopy. Hein. Enfin, ça, c'est happy. Derrière, il y a. Amset, hein, à tête humaine. Hein. Le faucon, alors ça c'est celui qui a le nom le plus compliqué. Kébécénouf. 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 Finalement, pas très compliqué. Kébécénouf. C'est joli comme nom. Et puis alors le dernier, à tête de chien, chacal. Doua Moutef. Voilà. Bien. Et ben voilà. Nous sommes en possession de nos vascanas. Hein.
Mais est-ce que pour c'est tout toujours monde, pardon, oui. pour tout le monde, c'était les mêmes
oui.
Dieux,
oui.
les mêmes quatre dieux.
Absolument. Tout à fait. C'est vraiment systématique. Hein. Alors, évidemment, sur ces 3500 ans, j'allais dire au minimum, hein, de cette longue culture égyptienne, les choses ont quand même pu évoluer. Hein. Ça dépend aussi de quel niveau social vous êtes. Hein. Ça ne se passe pas de les varer. Si vous êtes un vague artisan dans les bas-fonds de Deir el-Médineh, et si vous êtes le pharaon, hein, voilà. Hein. Mais on va dire que des vases comme, enfin, quand vous appartenez à la société égyptienne, vous avez droit à ça. Hein. Et c'est systématique. Alors, votre question est intéressante aussi parce que je vais vous passer une diapositive juste après, voilà, qui vous montre d'autres vascanopes. Donc les vascanopes, vous en verrez partout. Hein. Les vascanopes, il y en a partout. Je connais peu de collections égyptiennes dans les musées en France où il n'y ait pas, alors quelquefois c'est simplement une couverte, hein, ou un vase, ou simplement une partie inférieure, que sais-je encore. Mais les vascanopes, il y en a vraiment beaucoup partout, parce qu'il y avait beaucoup de tombes, donc beaucoup de vascanopes dedans. Hein. Et donc voilà à nouveau un ensemble de vascanopes. Allez, on se fait une petite révision. Hein.
En quelle matière ?
Alors, en quelle matière ?
En pierre, en céramique.
Alors, on pourrait penser que c'est de la céramique, effectivement. C'est pas de la céramique. Mais, alors, on pourrait penser à de la pierre aussi. Ça n'est pas. Pardon ?
De la terre.
Oui, alors, de la céramique, mais non, ça n'en est pas. Donc, c'est pas de la terre, pas de la terre cuite peinte, c'est pas de la céramique.
Du bois ?
C'est du bois. On pourrait penser à de la pierre peinte, effectivement, aussi. Mais non, c'est du bois. Et peut-être, vous le remarquez, mais ces vases canopes-là, ils ont une particularité. Alors, ils sont très colorés.
Ils sont colorés.
Quelquefois, d'ailleurs, les vases canopes en pierre que l'on voit aujourd'hui étaient également couverts de peinture. Simplement, ils n'en ont plus. Alors, pas forcément ceux en albâtre qu'on a vus avant, hein, qui pouvaient quand même quelquefois être rehaussés d'éléments peints. Par exemple, l'inscription pouvait être peinte, que sais-je encore. Hein. Mais l'albâtre est une pierre suffisamment belle pour qu'en plus, on ne la recouvre pas de couleur. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais souvent, la peinture venait quand même rehausser la sculpture elle-même, d'accord ? Mais là, ces vases en bois, complètement peints, ont une particularité que vous ne voyez peut-être pas très bien, c'est un, mais que peut-être vous devinez.
Ils ont tous une coiffe, on dirait.
Oui, mais ça, ils en avaient aussi dans la... Oui. Ils ont la coiffe tripartite.
Par contre, on retrouve bien les têtes.
Oui, absolument. Hein. Des dieux, nous allons réviser dans une seconde, d'ailleurs.
Ils ont une forme bien momifiée.
Oui. Oui, ça, vous avez raison de le dire. Hein. Ils sont eux-mêmes momiformes. Oui. Il y a peut-être un détail que vous avez du mal à voir, mais... J'attends une seconde pour voir si vous, éventuellement vous le trouvez.
Les inscriptions sont juste devant au lieu d'être tout autour du vase.
Oui, il y a une sorte de cartouche avec l'inscription devant, oui.
Et on dirait qu'il y a à chaque, en bas de la tête, il y a des écussons, je ne sais pas quoi.
Là, tu veux dire ?
Oui.
C'est leur cou.
C'est une sorte de collier, tu veux, qui est autour du cou et qui passe sous la...
D'accord.
Sous la coiffe, enfin sous la
perruque. Non, c'est pas ça. Bon, comme
bah, ils ont tous des perruques.
Oui. Ouais. Même la pile, il a une sorte de perruque qui passe derrière. C'est... Ouais.
Deux blanches et deux sombres.
Deux.
Deux sont blancs et deux sont sombres, peut-être.
Oui, il y en a deux plus clairs que... Oui. Ouais. Mais il y a surtout quelque chose d'assez curieux que vous avez peut-être deviné. Quand... C'est qu'en fait, là, ils sont faits d'une seule pièce. Il n'y a pas un couvercle sur le vase, c'est complet. Vous ne voyez pas de jonction.
Ça, c'est pas évident. Hein.
Non, c'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai laissé...
On pensait que c'était l'anneau,
justement. Non, non, c'est... Ils sont faits d'une seule pièce. Ils ne s'ouvrent pas. Vous pouvez essayer de l'ouvrir, ils ne s'ouvrent pas. C'est fait d'une seule pièce, ils sont en bois plein. Et ça, tout simplement parce qu'à une certaine période, on a... décidé, si vous voulez. On a changé un peu les règles les règles funéraires, les usages funéraires, et on momifiait les corps, on enlevait les viscères, que l'on traitait à part, mais qu'on remettait dans le corps. Mais puisque l'habitude était d'avoir des vases canopes, on faisait quand même des vases canopes, mais factices.
D'accord.
Des sortes de faux vrais vases canopes, si vous voulez.
Donc c'est plus récent.
Si tu veux, c'est pas forcément plus tardif. C'est, alors, je crois que c'est du Nouvel Empire, si je ne m'abuse. Non, c'est la troisième période intermédiaire. Hein. Bon, l'histoire d'Égypte est tellement longue. Hein. Donc, c'est troisième époque intermédiaire, c'est juste avant la période, la basse époque, en fait. Hein. Eh bien, à cette époque-là, on a, pendant quelques temps, ça a duré un siècle environ, ou deux, hein, on a changé les pratiques funéraires, pas forcément partout, hein, d'ailleurs, hein. Mais on a décidé, donc, dans certains cas, de remettre les viscères dans le corps, mais puisque l'usage voulait qu'il y ait des vases canopes, on en a mis, mais factice, parce qu'il en fallait quand même. Donc vous voyez, c'est vraiment ça répond bien à la question que vous avez tout à l'heure, c'est une sorte de règle, c'est un usage. Hein. Et même si on n'a pas vraiment besoin, puisque les viscères sont mis dans le corps, eh bien on en fait quand même. Ok ? Bien. Ah, voilà pour les vases canopes. Alors, dans un instant, on va regarder d'un petit peu plus près quelques sarcophages, parce que c'est important de voir ce qu'il en est. Vous aurez compris que dans la séance qui est celle-ci, on continue à travailler, mais avec l'Égypte ancienne, c'est un peu obligatoire, hein, sur le mobilier funéraire. Hein, ce qu'on a fait dans la première séance, quand on a parlé
des
ouchéptis, ce qu'on a... plus ou moins fait dans la deuxième, parce que les amulettes, souvent, pas toujours, et pas seulement, étaient placées dans les tombes aussi, hein, dans son bouquin les tombes, et là, on reparle effectivement du mobilier funéraire. Bien. Mais avant de regarder d'un peu près quelques sarcophages, je voulais vous montrer ça. Est-ce que cette sculpture, là, vous en voyez une, je crois que vous en montrez pas mal d'autres, hein, si vous allez au Louvre, une vitrine où il y en a des tas, les unes à côté des autres, est-ce qu'elle vous fait penser à quelqu'un? Cette figure divine que vous voyez là.
Ptah.
Elle fait penser à Ptah, d'abord. Hein. Vous rappelez Ptah, hein. Ptah, qui est cette figure momiforme, hein, qu'on a vue tout à l'heure. Effectivement, la figure que vous voyez là fait penser à Ptah. Est-ce qu'elle veut penser que à Ptah?
Non, Osiris.
Elle veut penser à Osiris. Hein. Mais ça ne doit pas trop nous étonner, parce qu'on a vu, avec de la scanner, à quelle voie on pouvait lier les gens. Hein. Vous rappelez Osiris de ce personnage dont j'ai déjà oublié le nom, hein, dont les viscères étaient dans Vascalope. Hein. Donc on peut lier Ptah et Osiris. Donc on aurait là une divinité qui serait une sorte de Ptah-Osiris, en quelque sorte. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre ?
Un petit faucon.
Vous voyez sur le devant un petit faucon. Alors ce petit faucon, il vous rappelle qui ?
Horus.
Belorus. Hein. Le problème, c'est qu'on a déjà vu d'autres faucons qui n'étaient pas Horus, par exemple. Kébé-sé-nouf, c'est ce dieu qui protège certains viscères. Hein. Voilà. Alors là, pour nous arranger, c'est ni Horus, ni Kébé-sé-nouf. C'est trop simple. Hein. C'est une des figurations d'un autre dieu qui s'appelle Sokaris, ou Sokar, ça va lui-même. Ce qui fait que la figure que vous voyez là, on l'appelle en général Ptah, Sokar, Osiris. C'est une figure solide qui concentre en un et trois. Et ça, quand on n'est pas habitué, on est un peu découragé d'abord, parce que ça ne ressemble pas vraiment à ce que l'on connaît d'abord. Et ensuite, on se dit, on ne va jamais y arriver, quoi. Hein. Mais en fait, il faut voir ça un peu dans la lignée de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire le fait qu'on peut associer une figure à un autre. Tout à l'heure, on avait un mortel, mais qui devient immortel. C'est pour ça qu'on associe à Osiris. Okay, comme tout à chacun peut l'être. Hein. Et on peut, de la même manière, un peu comme on le ferait dans un texte. Après, toutes ces figurations sont jamais que des hiéroglyphes, si vous voulez. On peut les associer. Et il suffit de lire. Vous avez une figure qui ressemble à Ptah, bah Ptah, qui ressemble à Osiris, et eh bien Osiris. Et puisqu'en plus, le dieu Sokar, c'est Ptah, Sokar, Osiris.
Et quand on n'avait pas déchiffré les hiéroglyphes, oui. Qu'est-ce qu'on faisait pour les...
Eh bien, on était bien embêtés. Parce que c'est très compliqué. Et ça, Champollion, il nous a bien aidés. Hein. Voilà. Et donc, à votre avis, ce Ptah, Sokar, Osiris, hein, c'est une... que l'on trouve très souvent dans les tombes, hein, les... représentations de Ptah, Sokar, Osiris sont des représentations que l'on a très souvent dans les tombes. C'est une divinité qui évoque quoi ? Bon, vous le savez pour Ptah et Osiris. Hein.
Voilà, oui. La résurrection.
Ben voilà, toujours la même chose. Hein. C'est toujours l'idée de la... Bon, Ptah, je rappelle, c'est plutôt un dieu chthonien, un dieu des morts, du sous-sol, mais d'un sous-sol qui n'est pas sombre et terrible. Et, hein, c'est, Ptah, c'est aussi un dieu de la Renaissance, comme Osiris. Hein. Alors, Sokar, il en remet une couche, si j'ose dire. Hein. Donc, si vous mettez ça dans la tombe, alors là, vous allez ressusciter, il n'y a pas de problème. Hein, d'accord ? Si vous voulez, c'est une manière, en accumulant, pourrait-on dire, hein, ces éléments de... J'allais presque dire, mais un peu... dire un peu trivial, j'ai même bétonné le truc, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que dans votre tombe, je vous rappelle, hein, vous, d'abord, le mort est bandelété, donc va comme Osiris renaître. Il est accompagné de dizaines, voire de centaines de douches petits qui font son travail à sa place pendant le passage dans l'au-delà. Il est accompagné de Vascanope qui protège ses viscères, c'est quand même assez sympa. Hein. Et puis en plus, Tassoka Osiris qui vient rajouter une couche de protection. Et on en verra encore d'autres. Hein. Donc vous voyez à quel point il y a dans la tombe un nombre important d'éléments qui viennent accompagner le mort, qui est encore une fois un Osiris mort. Hein. Il y a quelqu'un qui va renaître. Ok ?
Et pourquoi le faucon là, non ?
Alors. Le faucon, c'est en l'occurrence là un animal qui fonctionne avec Sokaris. Donc le faucon, c'est Horus, mais c'est également une des représentations animales de Sokaris. Hein. Donc le faucon, c'est Sokaris, on l'appelle Sokar, hein, c'est lui. Ok ? C'est pour ça qu'on appelle ça Ptah, Sokar, Osiris.
D'accord.
Le faucon, c'est une des figurations de Sokaris. Alors, souvent également, le faucon, on peut mettre des petites représentations de faucon sur le sarcophage. Hein. Ça peut être l'évocation de Sokaris, ça peut être aussi l'évocation d'Horus. Hein. Mais là, dans ces figures-là, c'est la dimension de Sokar avec Ptah et Osiris. Ok ?
Ça fait quelle taille, ça ?
C'est une pièce à peu près de cette taille-là. Hein. Alors souvent, je tiens à dire que sur le, sur la tête de la statuette, et que sur la tête du faucon si, il y a la présentation de deux plumes. Rappelez, on avait vu une amulette avec deux plumes, hein, là, que l'on voit sur d'autres dieux. Runum, par exemple, a souvent deux plumes sur la tête. Hein. Bon, alors, maintenant, on va regarder d'un peu plus près quelques sarcophages. Parce que c'est quand même important d'y voir clair là-dedans. Le sarcophage, après tout, c'est le cercueil hein, dans lequel le mort momifié est placé. Et ben, le sarcophage, il faut aussi qu'on le lise. Hein. Là, je vous montre un sarcophage d'une femme, la dame Madja. C'est un sarcophage qui date du 15e siècle avant Jésus-Christ, un sarcophage du Nouvel Empire. Qu'est-ce... Et là, vous en voyez un côté, on va regarder l'autre après. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous arrivez à lire, à comprendre de ce que vous avez sous les yeux ? Je ne vous demande pas de lire les hiéroglyphes. Alors là, il y a, évidemment, vous remarquez l'œil qui s'appelle l'œil Oudjat. L'œil Oudjat. Hein. Vous avez donc bien repéré cet œil d'Horus qui est là et qui est un œil protecteur. Donc vous voyez très bien l'œil Oudjat. Parfait. Qu'est-ce qu'on y est d'autre ?
Osiris.
Là, vous connaissez tout à fait Osiris. Alors là, il est vraiment. Alors, il est tout blanc sur fond blanc, mais c'est Osiris, là, tout à fait représentatif. Hein. Voilà. Hein. Donc, on voit Osiris. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ?
Il n'y a pas des Anubis au-dessus, là-haut ?
Oui, tout à fait à gauche.
Ici.
Ici, et puis au-dessus d'Osiris.
Et là-haut. Ouais. On devine effectivement, couché sur ces sortes de socles, hein. Oula, fais attention. Voilà, on devine effectivement des Anubis. Alors, vous les voyez, mais en perspective, c'est un peu compliqué. Là, vous voyez la queue d'Anubis.
Ouais, c'est ça.
Alors, c'est Anubis entièrement chacal, si j'ose dire. Hein, et tout noir. Hein. Alors, il est couché là. Là, vous devinez sa tête, là, c'est sa patte, le corps et la queue qui pend derrière. C'est la même chose en sens inverse de l'autre côté. Hein. On n'y voit pas très bien, parce qu'encore une fois, ça tourne, si j'ose dire. Hein. Mais vous avez raison, il y a deux Anubis. Ça vous étonne ?
Ah non, c'est le
dieu d'abord. Non, le dieu d'abord, il accompagne les c'est vraiment celui qui prépare la cérémonie funéraire, etc. Il a tout à fait sa place, là. Hein. Et Osiris, alors là, n'en parlons pas. Hein. Bien. Qu'est-ce qu'on y a d'autre encore ?
Un couple, ça doit être la.
Alors, il y a effectivement un couple, là.
Et la femme, ça doit être la femme machin, la Madja.
Il y a de grandes chances que la dame soit Madja.
Son mari.
Et son mari.
Le tien.
Oui.
Alors le bras.
D'où une certaine intimité. Ouais. Hein. Et alors
Et il regarde
les
autres
personnages.
Il apporte
des animaux.
Il y a des.
Ils apportent à manger, non ?
Voilà, c'est un, effectivement, on amène, là il y a effectivement des canards, hein. Là il y a visiblement une outre, quelque chose comme ça, là une sorte de jarre, on amène visiblement à boire et à manger, effectivement. Bon, dans l'au-delà, il faut quand même
savoir
ce qu'il faut. Hein. D'accord ? Bien. À part le fait que ça sert de support à des hiéroglyphes, dont vous ne me demanderez pas ce qu'ils me disent, que je suis incapable de le dire, qu'est-ce que c'est que ces trucs orange ?
C'est ce qui ferme le sarcophage ?
Ouais. Et pourquoi le fond est blanc ?
Le fond est blanc. Pour que ça ressorte, que les inscriptions se voient mieux.
Oui.
Non, parce qu'elles sont sur du jaune.
Oui.
Parce que c'est une femme.
Ouais.
Parce qu'on voit qu'elle est représentée en.
Est-ce que tous les sarcophages étaient blancs ?
Oh, on en verra d'autres couleurs. Ouais.
C'est donc, du bois, c'est du
non,
bois.
Là, il y a une raison autre, enfin. Parce qu'il y en a des blancs, hein, il n'est pas le seul, il est blanc.
C'est
non, mais
c'est le bois, alors il y a une protection.
Alors, c'est vrai que souvent, le bois est couvert d'une première couche avant d'être peint. Souvent, la première couche, d'ailleurs, n'est pas tant une couche de couleur qu'une couche d'une sorte d'apprêt, un peu plâtreux, mais qui souvent, d'ailleurs aussi, recouvre une sorte de toile. Hein. Vous avez souvent une sorte de toile qui vient couvrir le sarcophage, très fine, et qui elle-même est couverte d'une sorte de substance plâtreuse très très fine, d'enduit, si vous voulez, et c'est ça qui est peint. Voilà. Donc en fait, c'est bon parce que ça évoque les bandelettes à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous avez la dame Majda qui est dans l'été, quoi. Et c'est blanc. Donc finalement, vous avez une sorte de représentation de la momie. Et ce que vous avez là, c'est vraiment une sorte de bandelette définitive hein, qui viennent c'est-à-dire saucissonner la momie emballée, si j'ose dire. Donc vous avez une sorte de représentation de la momie bandelettée sur le sarcophage lui-même. Vous voyez ?
D'accord.
On regarde de l'autre côté ? Alors, vous connaissez l'œil, absolument, hein, on reconnaît l'œil, très bien. Nos anubis, vous avez raison, on les trouve là, très bien, très visible, hein, très facile à voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Des personnages qui doivent évoquer la vie de la dame, non ?
Oui, qu'est-ce que vous y voyez ?
Déjà deux dames.
Deux dames.
Qu'est-ce qu'elles font ?
On dirait qu'elles regardent l'horizon.
Elles regardent l'horizon ?
Oui.
C'est âme, ma sœur.
Elles ont la main sur la tête.
Elles ont la main sur la tête, oui.
Et puis l'autre, mais elles ont quelque chose dans la main.
Salut militaire.
Elles tiennent quelque chose. Hein.
On va prendre.
Avec leur main droite, elles tiennent un truc.
Oui, oui.
Elles pas très visible, oui.
Non, c'est pas
c'est, ce sont des petits vases. Hein.
Ah.
Ah, les vases canopes. Les vases canopes, ils sont dans la tombe, a priori.
Bon, alors,
après,
il y a des messieurs.
Alors, après, il y a deux messieurs, oui. Bon, il y a deux dames qui font ce geste-là qui tient les petits vases. Après, il y a deux messieurs.
Ils
tirent quelque chose.
On retrouve les deux.
Pardon ? Il tire quelque chose qui est à droite, là.
Oui.
Hein, on voit la corde, là.
Oui,
là, il y a quoi, là ?
Deux dames.
Deux autres dames, voilà. Et là, il y a effectivement ce qui est tiré.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est la barque.
C'est quoi ?
Un filet.
Une barque ?
Un filet.
Un filet. Ouais, ils vont à la pêche, quoi.
En quelque sorte, ils amènent à manger.
Ben oui,
pour
manger.
Ben oui, pour manger ce qu'il y a de l'autre côté, il faut bien aller à la pêche. Ils
transportent la momie, non ?
Ah !
Le sarcophage, il transporte le sarcophage.
Ouais.
Ah, mais vous,
c'est. Parce que ce que vous voyez là, c'est le sarcophage.
Ah, oui. Et oui, on voit la tête.
Regardez là.
D'accord.
Hein, vous voyez le sarcophage, hein, avec les bandelettes définitives. Hein. Voilà le sarcophage. Là, vous voyez la tête. Vous voyez même la barre postiche, tenez. Et là, voilà la tête qui est jaune comme le sarcophage lui-même.
Hein.
En fait, ce qui arrive là, c'est à ce sarcophage. Le sarcophage que vous avez là, c'est le même que celui qui est devant vous.
D'accord.
D'accord. Et donc ces deux personnages sont en train de tirer ça. Enfin, tout ça peut être un peu lourd. Hein. Alors il y a quand même sur l'espèce, on le voit de pas de loin, mais il y a des petits traîneaux qui permettent quand même de le tirer. Hein. Enfin, d'ailleurs, le traîneau, on le met dans la tombe. Parce qu'une fois qu'il est utilisé. Enfin, hein. Donc ils sont en train de tirer ça. Alors ces deux femmes, qu'est-ce qu'elles font à votre avis ?
Eh bien, elles remplissent les vases à viscères, non ?
Non. Parce que c'est déjà fait, en fait.
Hein.
Puisque la dame Majda, elle est dans son sarco, là.
Ils amènent à boire.
Ils amènent à... Oui, parce qu'on boit un petit coup.
C'est
pas sûr, mais...
C'est des prêtresses.
Des prêtresses.
Des pleureuses.
Des pleureuses. C'est des pleureuses, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le geste qui vous interrogeait, hein, c'est le geste du désespoir. Hein. On pleure. Hein.
Oui, mais le vase.
Pardon ?
Et le vase.
Ah, ça, c'est... Alors, à votre avis, excusez-moi.
Il faut le remplir, et quand vous les remplissez, elles sont payées.
Pardon. Ah oui, c'est des vases lacrymales. Hein, des vases. Alors, on a pu penser ça d'ailleurs, hein, et même dans la culture gréco-romaine. Hein, souvent, il y a des petits vases qu'on trouve dans les tombes, on disait c'est des vases lacrymales, les gens mettent leurs larmes. Bon. En fait, non. En fait, c'est plutôt des vases qu'on peut appeler des vases à lustration. C'est-à-dire que quand on met le sarcophage dans la tombe, généralement, on fait des libations, si vous voulez. Hein. Qu'on déverse des parfums, de l'huile, etc. sur la tombe, c'est une manière d'offrande, si vous voulez. Hein. Donc les vases que vous avez là, c'est plutôt ça. C'est des vases à offrande. Une fois que le sarcophage sera dans la tombe, eh bien, on fera, par exemple, sur la stèle qu'il y a sur la tombe, on déversera des parfums, des huiles, etc. C'est une manière d'offrande. Hein. D'accord ?
Okay.
Est-ce qu'il n'y a pas encore une chose que vous n'auriez... Bon, alors, il y a les deux dames, là, qui assistent, hein, et puis là, il y en a deux autres qui se lamentent, on l'a vu, hein, ce sont des pleureuses. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas trop vue encore, qui est pourtant important.
Les portes.
Oui, les portes, c'est quoi, en fait?
Les portes de l'enfer.
Non.
Enfin, l'enfer dans leur sentiment.
Oui, oui, dans leur... Oui, oui, non.
Le temple.
Pardon.
Un temple.
Pas un temple.
La tombe.
La tombe. C'est la tombe. C'est-à-dire qu'en fait, de manière très simple, hein, on est en train de tirer le sarcophage, tout en pleurant beaucoup, vers la tombe. Mais qui est protégé par la Nujat, et d'autres sont protégés, d'autres qui sont peut-être la même d'ailleurs, hein, sont protégés par Anubis. Voilà.
Mais d'accord. Est-ce que c'était un décor standard, ou si il est propre à telle ou telle personne?
Alors, j'allais dire, hélas, c'est pas décor, enfin, hélas ou heureusement, c'est pas décor standard. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on retrouve ailleurs, mais ce n'est pas du tout systématique. Autant les vases canopes, c'est toujours les mêmes. Alors l'inscription change, hein, et le style change, et la matière. Puis ils sont plus ou moins, qui est plus ou moins grand factice ou non. Hein. Il y a donc des changements. Mais c'est toujours les mêmes quatre figures. Hein. Alors que pour les sarcophages, non. Et on va en voir d'autres, vous allez voir que c'est différent. Donc ce n'est pas standard. C'est ce qui complique un peu la chose. Hein. Là, je vous en ai choisi un pas trop compliqué. Parce que il n'est pas trop compliqué, justement. Hein. Alors, on va en voir quelques autres. Oh, pas qu'un. La photo n'est pas extraordinaire, mais bon. Alors, cette fois,
il est doré.
Il est doré. Il est doré, donc c'est pas blanc. Alors voilà, c'est plus riche, donc on a là visiblement quelqu'un d'un peu plus, hein, convenable, hein, voilà. Doré, ça peut peut-être se référer à autre chose, la dorure.
Soleil.
L'idée du soleil, oui. Et puis il y a aussi une sorte de coutume qui voyait dans le doré l'idée de la chair des dieux. C'est comme si la chair des dieux était dorée, si vous voulez. Je vous rappelle que ce que vous avez devant vous, c'est peut-être effectivement... Tammut Nefret, mais c'est aussi l'Osiris Tammut Nefret.
Oui.
On est d'accord.
Ah oui.
Hein? Alors on ne met pas à chaque fois, parce que bon, mais c'est l'Osiris Tammut Nefret, puisqu'elle est à l'image de l'Osiris momifiée, etc. Hein? Donc, quelque part, elle devient l'image du dieu, une sorte de dieu elle-même, d'une certaine manière. Hein? Et le dieu, en plus, protège Tammut Nefret. Donc, voilà, le doré, c'est finalement quelque chose qu'il faut avoir la possibilité d'avoir. Donc, il y a une dimension. Je dirais social et de richesse, mais aussi une sorte de référence à la chair même des dieux. Qu'est-ce que vous y voyez?
Il y a la déesse vautour.
Alors il y a effectivement la déesse, hein, qui a des grandes ailes. Hein. Ça peut être qui, cette déesse-là? On en a un peu parlé la dernière fois, même si je ne voulais pas montrer telle qu'elle. Bon. Avant de revenir à cette déesse, le reste, c'est pas très compliqué. Bon, il y a des tas d'hiéroglyphes qui disent que c'est Tammut Nefert, ou Nefret, Nefret. Mais qu'est-ce que vous voyez d'autre, autrement, à part cette figure-là? Qu'est-ce que vous devinez d'autre, autrement?
Les mains.
Pardon, on voit les mains. Hein. C'est généralement comme ça. Hein. À l'image d'Osiris, seules les mains, et quelquefois Osiris, c'est même pas les mains, seules les mains et la tête... ressort, si j'ose dire. Hein. Voilà. Et puis ça, qu'est-ce que c'est?
Les
bandelettes. Hein, ce qu'on a vu précédemment, de manière plus simple, les bandelettes qui, j'allais dire, finissent d'empaqueter le paquet momie. Okay, mais revenons-en effectivement à cette déesse-là. Le fait qu'elle ait comme ça des grandes ailes bien couvrantes vous fait penser à quoi? Une déesse qui pourrait correspondre à quoi?
Protectrice,
c'est sûr, oui.
Le ciel?
Le ciel. Vous vous rappelez de quelle est la déesse du ciel?
Nout.
Hein, du ciel et précisément aussi de la nuit. Hein. La déesse Nout. Nout, c'est la déesse du ciel et la déesse de la nuit. Elle fait quoi d'ailleurs? Nout. On en avait parlé la dernière fois un peu. C'est pour ça qu'elle est comparée généralement, enfin, souvent elle est associée à un animal.
Cochon?
Oui, la truie. Et pourquoi? On avait vu ça la dernière fois.
Parce qu'elle mange ses petits.
La truie peut manger ses petits. Et Nout, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle mange le soleil.
Elle mange le soleil, on dit, en fin de journée. Et le lendemain matin, elle en accouche. Hein, voilà. Donc Nout, c'est cette espèce de grande déesse, c'est elle qui, quelque part, hein, fait partie de cet équilibre de l'univers. Hein. Sans Nout, qui mange le soleil, mais le fait renaître, là, il n'y aurait pas de soleil, ce serait bien embêtant. Hein. Voilà, donc c'est Nout, qui est une espèce de grande divinité fondamentale et protectrice, qui est là et qui étend ses ailes. Voilà le côté du sarcophage de Tammut-Néphret. Alors, qu'est-ce que vous y voyez? Alors, des hiéroglyphes, ok, très bien.
Anubis.
Oui. On commence par là.
Tot.
Vous le reconnaissez. Okay. Ibiocéphale. Ouais. Tot. Et là, vous avez la chance, c'est bel et bien Tot. C'est pas encore un dieu. On a du bol. Hein. Bien. Tiens, on va aller faire quelque chose de simple.
Anubis.
C'est Anubis. Ok. Tiens, derrière.
Un deuxième Anubis.
Alors, si ce n'est pas Anubis lui-même, ça peut être qui?
Son avatar.
Non, le Vascanop.
Le Vascanop, peut-être, qui s'appelle.
Alors,
là. M7, non? M7, c'est 7 de table,
il a une tête
de
table.
Douamoutef. Alors, ça peut donc être Douamoutef. Et à vrai dire, c'est Douamoutef.
À quoi on le voit alors?
Ben, au hiéroglyphe.
Ah, c'est écrit.
Ne lisons pas les Égyptiens.
C'est qui le deuxième?
Et alors, le deuxième, c'est qui? Oh, ça peut être qui? Et vous avez vu qu'il y en a un autre là.
Oui,
il est facile.
On voit pas.
Oui, il a une tête de faucon.
Russe.
Alors, ça peut être en russe.
Ou alors.
Qui ressemble
à. Nous. Kébé, c'est nous. C'est Kébé, c'est nous.
D'accord.
Et alors, puisque vous avez ici Kébé, c'est nous, là, Kébé, c'est nous, doit vous taire, lui, ça doit être qui?
Happy.
Pas Happy. Happy, c'est le singe.
Amset.
Alors, sur l'autre côté, alors oui, il n'y en a que trois, mais sur l'autre côté du sarcophage, il y a Happy, avec, alors je ne sais plus qui il y a, mais enfin, deux autres, c'est comme
ça. Il y est quand même.
Il y est quand même. Oui, les quatre, ils sont. Vous voyez, c'est pas compliqué finalement.
Il suffit de lire le hiéroglyphe.
Voilà ce que l'on trouve quand on ouvre le sarcophage de Tammut-Néphret.
C'est des poupées russes.
Vous pouvez me décrire ce que vous voyez? Il y en a trois. Il y en a trois vraiment?
Non. Il y a deux sarcophages plus la momie.
Voilà. Il y a deux sarcophages. Parce que ça, c'est la cuve du premier
avec, la première.
Avec le couvercle. Ça, c'est la cuve du deuxième. Et ça,
la momie.
Alors, c'est vraiment la momie elle-même. Parce que regardez, j'entends beaucoup de momies derrière. C'est quoi, non?
C'est comme un masque funéraire, mais sur toute la momie.
C'est ça. On appelle ça souvent une plaque funéraire, hein, ou une couverture de momie. C'est-à-dire, sur la momie, on met une sorte de plaque, si vous voulez, hein, qui couvre la momie, mais pas l'arrière, uniquement le devant. Voilà.
Derrière, on ne verrait pas.
Voilà, derrière, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment uniquement sur le dessus. Et ben, c'est ça que vous voyez là. C'est fait en deux parties, d'ailleurs, vous le voyez. Hein.
Ouais.
Donc, je vous montre ça parce que tout dépend des sarcophages. Le sarcophage qu'on a vu de la dame Madja tout à l'heure, hein, il y a un sarcophage, il y avait la momie devant, tranquille. Hein. Là, vous voyez, on est quand même devant quelqu'un qui est important. Et ben, il y a plusieurs sarcophages et une plaque avant. Tout en Camon, pour c'est un exemple célèbre, c'est pareil, il y a plusieurs sarcophages,
ouais.
Hein, l'un dans l'autre. Hein. Voilà.
Et alors,
vous
prenez un temps fou pour faire ça?
Un temps fou.
Avant la mort.
Absolument. Un temps fou. Et il y a des villages entiers d'artisans qui ne travaillent que pour ces questions funéraires. L'enjeu, il est capital. Hein. Il est de pouvoir être un Osiris après. Donc, il y a un gros enjeu. Donc, sur Terre, il y a l'enjeu. Il y a les moyens correspondants. Toute une politique. Allez, un autre petit sarco. J'ai même pas fait exprès. J'aurais bien aimé, bon. Alors.
Eh ben, c'est encore une dame.
Encore une dame.
Bon, on leur
le grand collier.
Alors, on retrouve, oui, ça, on n'en a pas trop parlé les dernières fois, mais sur les autres, mais généralement, en effet, au-delà, il y a deux, trois choses qu'on trouve toujours, en particulier la perruque et le grand collier. Alors oui, on retrouve en tout cas deux grandes ailes qui peuvent être l'allusion à Nout, effectivement. Hein. Au centre, voilà, Ré, Ra, le soleil. Hein. Bon, entre Nout et Ra, il y a quelques accointances. Hein, parce que Ré naît de, puisqu'il est mangé tous les soirs pour renaître tous les matins, le soleil. Hein, puisque Nout, je vous rappelle. Hein,
c'est quand même son grand-père.
Pardon ?
C'est quand même son grand-père.
Ben oui, mais ça, vous savez, la nature, quelquefois. Mais voilà, donc si vous voulez, Nout hein, mange, enfin avale plutôt que mange, hein, avale le soleil en fin de journée, et fait renaître, accouche du soleil le matin. Donc on ne sera peut-être pas surpris de cette combinaison-là. Hein. Là, vous avez. Des bandelettes qui sont suspendues aux hiéroglyphes, ok, enfin, des peintures représentant, c'est suggérant les bandelettes, et c'est dans les temps hiéroglyphes. Et puis après. Et ben voilà, nous avons les dieux qui sont les dieux tutélaires des Vascanopes, dont nous nous rappelons des noms. Ici, vous avez le dieu singe qui s'appelle.
Singe.
J'ai entendu. Le dieu singe, comme Droupi.
Happy.
I am happy. Hein, il a l'air. Voilà. Ça, c'est happy. Le dieu qui a une tête humaine.
Amset.
Le dieu qui a une tête de faucon. Nouf. Et le dernier à tête de chacal, on va dire. Voilà. Vous voyez, une fois qu'on a ça. Alors. Encore une fois, là, je vous en montre quelques-uns, je crois qu'il y en a encore un ou deux, qui sont pas trop compliqués. Il y a des choses qu'elle voit qui sont un peu plus costauds. Hein. Voilà.
On va rester simple. Hein.
Voilà, on reste simple.
Wow. Là, c'est l'intérieur.
Alors voilà, là, à droite, je vous ai mis l'extérieur, mais qui n'est pas très clair, puis un peu abîmé, c'est avant restauration. Hein. Voilà, donc je vous l'ai mis pour que vous voyez en extérieur, mais c'est plutôt sur l'intérieur. Je voulais qu'on travaille. Donc ça, c'est la cuve. Et ça, c'est le couvercle. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voyez on va commencer par le fond de la cuve.
Il y a des plumes sur la tête.
Oui, et c'est un personnage qui a deux plumes sur la tête. Hein. Il y a le rond de soleil, oui. Ré, Ra, oui.
Les cornes de bélier.
Les ailes.
Alors, on voit effectivement les cornes de bélier. Qui sont de qui ? Chnoum, hein, c'est le dieu qui crée. Hein, qui, hein. Il y a d'ailleurs d'autres cornes encore, comme si ce n'était pas assez.
Apis,
hein, c'est le dieu, la puissance, c'est un dieu taureau. Hein, okay. Donc, vous voyez comment ça se passe, c'est une espèce d'empilement de hiéroglyphes, d'une certaine manière. Hein. Ça fonctionne un peu comme un texte, dans lequel on mettrait, plutôt que de mettre Apis plus Chnoum plus Ré, on met les signes et les hiéroglyphes correspondants, d'une certaine manière. Et alors, ça, c'est sur la tête de ce personnage-là.
Il n'y a pas un pilier de jade au milieu,
là ? Ah oui, regardez là. Là, vous voyez un grand pilier de jade. Vous le voyez là ? Vous le reconnaissez ?
C'est Osiris.
Hein ? Donc, c'est Osiris. Osiris, vous vous rappelez, la colonne vertébrale. Donc, en fait, vous avez Osiris, dont le corps... Et un pilier de jade. Vous vous rappelez, on en avait parlé la dernière fois, le pilier de jade est à la fois une sorte d'allusion au palmier qu'on ébranche, mais dont les palmes vont repousser, et à Osiris, puisque le pilier de jade, c'est sa colonne vertébrale, c'est sa structure. Hein. Là, c'est extrêmement parlant. Hein. Le pilier de jade, c'est la structure d'Osiris. Hein. Très bien. Donc, on a vu la cuve, et maintenant le couvercle.
C'est la dame
Donc c'est la dame Isetemkep, Red d'ailleurs. Donc ce serait la dame qui est représentée là, celle qui est dans le sarcophage. Eh ben non.
Non. Ah ben non, il y a du soleil. Alors,
il y a un soleil.
Ouais. Il y a un soleil, donc ça peut pas être ça.
Ouais. Donc c'est qui ?
Nout.
Eh ben c'est Nout. C'est Nout. C'est la déesse Nout. Nout, elle est souvent représentée comme ça, les bras en hauteur. Quelquefois, quand on est profil, elle est représentée. Alors, je ne vais pas le faire. Hein. Déjà, la dernière fois, je ne l'avais pas fait, mais elle forme un...
Un arc,
voilà, c'est ça. Un arc, c'est-à-dire qu'elle est à côté. Voilà, elle forme un arc. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la déesse Nout. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est couverte d'une robe assez moulante, d'ailleurs, qui est couverte de petites étoiles, puisque c'est le ciel, Nout, en fait. Hein. C'est le ciel, c'est la nuit, ça. Donc elle est couverte de petites étoiles, logique. Et elle tient le soleil qu'elle va avaler et qu'elle va enfanter. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Ah, voilà. Alors, vous les reconnaissez ?
Alors,
Amset.
Happy.
Happy.
Oh là là.
Faucon. Faucon. Kébé et c'est nous. Bravo. Et le dernier que vous savez par cœur.
Doigts.
Très bien. Mais alors, le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un trop.
Il y a le crocodile.
Alors, il y a le crocodile. On en a parlé la dernière fois, vous vous rappelez ? On a dit un petit mot. Sobek, hein, le crocodile, effectivement. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là.
Lion.
C'est un lion. Lion ou lionne.
Lion ou lionne.
Ça peut être Sekhmet. Hein. Là, un dieu qu'on a évoqué rapidement la dernière fois.
Le lièvre.
C'est un lièvre. Alors là, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Hein. C'est peut-être un ibis. Tot. Sauf que ce n'est pas eux, sans doute. C'est-à-dire que ces quatre figures que vous avez là sont sans doute les quatre piliers de l'univers. Parce que, si vous voulez, il fallait les quatre dieux qui, sont dans la tombe et sur la scène aussi, et qu'on a vu à l'extérieur d'un pion de sarcophage, pour les viscères, pour les protéger, ça c'est normal. Hein. Mais Nout, il semble qu'elle tient aussi en arc sur l'univers, parce qu'il y a à chacun des angles des porteurs du ciel. Et ces quatre petits dieux-là, qui ont justement, alors différentes formes souvent, mais là, c'est ces formes-là, sont justement sans doute les dieux porteurs du ciel. Tous, d'ailleurs, tous ces dieux-là portent un attribut qui est à chaque fois le même. C'est quoi ?
On voit pas très bien.
Oh, regardez là, là, on le voit bien. Et là aussi. Là, on le voit très bien. C'est une plume. Qui est-ce qui tient une plume ?
Matt.
C'est Matt. Et elle évoque quoi, Matt ?
L'équilibre.
Et justement, ils ont là, précisément, ils ont la plume de Matt pour permettre, vous voyez, cet équilibre-là. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'un sarcophage comme ça vous montre vraiment comment ça fonctionne. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous avez sous les yeux, d'une certaine manière, c'est un texte. C'est un texte. On le lit. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
C'est une sorte de texte, mais qui aurait une dimension esthétique, comme l'écriture égyptienne elle-même. Vous voyez ? C'est un texte fait de pictogrammes qui se lisent les uns derrière les autres. Alors, les textes, ça peut être, comme ce que vous avez là, hein, des lignes verticales, horizontales, mais ça peut être aussi des images où chaque élément fonctionne comme un hiéroglyphe, finalement. D'accord ?
Mm-hmm. Alors, pourquoi Nout, bon, on dirait qu'avec ses deux pieds, il y a un peu en lévitation, au-dessus d'une sorte de...
Eh bien, je ne sais pas ce que c'est.
Bon,
c'est peut-être la Terre, tout simplement. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé de regarder dans la bibliographie concernant Sarko, j'ai pas trouvé. Oui, c'est assez curieux, je ne sais pas.
Oui, c'est ça.
Pas du tout.
On ne peut pas tout savoir.
Hélas.
Ah,
ouais.
C'est de la pierre.
Là, c'est de la pierre. Là, c'est de la diorite, donc on est vraiment devant quelque chose de beaucoup plus lourd et. Ouais.
Austère. Bon,
pardon ?
Austère.
Oui. Oui, aussi. Mais je vais vous montrer ça pour vous montrer que les sarcophages, ce n'est pas des sarcophages en bois, légers. Quand il y a du monde dedans, c'est un peu moins léger. Mais voilà, hein, ça peut être aussi des gros sarcophages.
Oui, pour porter ça.
Oui, c'est évidemment beaucoup plus.
Mais c'est pour ça qu'il les traînait.
Celui-là, d'ailleurs, il est intéressant, ce sarcophage, parce qu'au-delà du fait qu'il est en pierre et pas en bois comme les autres, mais il y a beaucoup d'autres sarcophages en pierre, bien sûr. Hein. Il a aussi une caractéristique, si vous le regardez bien.
Les bras sont
un bras. Oui, mais ce n'est pas la seule caractéristique.
Devant, il a quelque chose devant.
Oui.
Il tient comme un long pagne.
Oui, il y a une sorte de long pagne.
Ouais.
Et justement.
C'est un parrain.
Alors, non. Inuya, c'est un grand fonctionnaire proche du pharaon, mais ce n'est pas un pharaon.
Il a la barbe, je
crois. Oui.
Ouais.
Mais surtout, il y a une chose qui, je crois, par rapport aux autres, est très frappante.
Mais c'est une espèce d'armoirie là, qu'il a sur un thorax.
Non, c'est son ventre, hein. Vous voyez la poitrine, en fait. Hein. Il est torse nu, vous voyez même le nombril.
Oui.
Il a un peu, il a l'embonpoint, il a les petits plis. Hein.
C'est les pectoraux. Pardon. C'est les pectoraux.
C'est ça.
Alors que d'habitude, ils sont tous bandés.
Eh ben voilà.
Alors que là, on...
là il n'est pas du tout uniforme.
Ben oui.
C'est qu'il est représenté avec les habits du vivant, vous l'avez dit d'ailleurs. Il a un pagne. Il n'a pas du tout, lui, et pas du tout présenté comme un Osiris. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce qu'on a vu avant, c'était des figures, des représentations de personnages momifiés. Là, non. Hein. Donc, il est présenté comme un vivant. Donc, vous en verrez aussi beaucoup comme ça. Hein. Vous verrez beaucoup de sarcophages où la figure qui est dessus n'est pas présentée momifiée, mais comme un vivant. Ce qui est, de toute façon, c'est-à-dire le statut qu'il aura plus tard.
Voilà. Il y avait d'autres sarcophages dedans, quand même.
Non. Le personnage est momifié et mis là-dedans. Alors, évidemment, ça dit, oui, je commence à le dire. Tu veux dire, à l'intérieur de ce sarcophage-là,
oui.
il peut ne pas.
D'accord.
Voilà. D'autant que là, avec celui-là, c'est déjà du costaud et c'est pas mal, quoi. Voilà. Alors là, vous les voyez peut-être pas bien, mais on retrouve ici, par exemple, ici, vous avez Douamoutef, là, vous avez Happy. Bref, on retrouve toujours un peu, enfin, pas toujours, mais souvent le même vocabulaire que ce qu'on a évoqué d'abord. Je ne sais pas si j'en ai mis encore un autre, mais de toute façon, on arrive à l'heure. Ah ben non, c'est le dernier. Voilà. Oh ben écoutez, il est moins 3. Bon, ben, je ferai 3 minutes de plus la fois prochaine. La fois dernière, j'avais fait 3 minutes 15 non plus. Voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais qu'on regarde de près toutes ces questions de mobilier funéraire. Alors, on va continuer, je crois que c'est dans une quinzaine de jours, très bientôt, avec la suite des événements. Voilà.
On continue avec quoi ?
Pardon ?
Je dis qu'on continue avec quoi ?
La suite des événements.
La suite des événements. Mais je vous dis